Le journal présenté par Paul Ferrier.
Bonjour à tous. Les tours jumelles de New York qui s'effondrent, cet avion qui s'écrase en Pennsylvanie, le Pentagone visé, c'est aujourd'hui le 15e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Et 15 ans après, la théorie du complot tient toujours la corde, notamment en France. L'accord entre Américains et Russes sur une trêve en Syrie va-t-il être respecté? Rien n'est moins sûr. Les opposants au régime de Bachar el-Assad en doute, en tout cas, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la gauche de la gauche à la fête de l'UMA à la Courneuve. Hier, Jean-Luc Mélenchon a présenté son programme quant à s'avancer unis pour 2017, ce n'est pas gagné. Puis aujourd'hui, les Catalans manifestent une nouvelle fois pour l'indépendance, qu'ils croient plus proche que jamais. C'est la Diada aujourd'hui à Barcelone. C'était donc il y a 15 ans, jour pour jour, et ça a changé la face du monde, un moment constitutif de ce qu'est ce 21e siècle. New York et ses avions pilotés par des terroristes d'Al-Qaïda qui ont fait chuter les tours jumelles du World Trade Center. Près de 3000 morts et encore aujourd'hui près de 75 000 personnes qui souffrent de troubles mentaux et physiques après ce drame. Ce matin, un sondage montre un chiffre perturbant. 66% des Français pensent qu'on leur a caché des choses sur ces attentats. 28% des Français pensent que le gouvernement américain est impliqué dans ces attentats. Et finalement, ce chiffre n'étonne pas Rudi Reichstadt, c'est le directeur de l'Observatoire du conspirationnisme.
La théorie du complot sur le 11 septembre 2001, c'est l'un des mythes conspirationnistes les plus importants, les plus populaires dans la contre-culture complotiste contemporaine. C'est pas un chiffre qui m'étonne, si vous voulez. Et en même temps, c'est un chiffre qui est inquiétant, parce que il dit quand même que plus de 25% des Français, c'est-à-dire plus d'un Français sur quatre, pensent que le gouvernement américain est directement impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les Américains seraient coupables, une chose dont ils ont été par ailleurs victimes. Et si vous voulez, cette inversion des choses, elle est quand même stupéfiante, quoi. Parce que on connaît en réalité les auteurs de ce crime, ils l'ont revendiqué, et plusieurs fois, il y a eu des procès. Donc si vous voulez, c'est l'un des événements les plus documentés qui soit, et pour autant, vous avez cette incrédulité dans une partie de l'opinion publique qui est absolument stupéfiante et inquiétante.
Rudi Reichstadt avec Philippe Randé. Les États-Unis durcissent le ton ce matin après l'essai nucléaire de vendredi par le régime nord-coréen. Des actions unilatérales contre le régime de Pyongyang pourraient être prises, c'est ce qu'annonce Washington ce matin. Restons aux États-Unis avec la boulette d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidence, obligée de s'excuser après le tollé causé par ses propos sur les sympathisants de son adversaire républicain, Donald Trump. Ses sympathisants, elle les avait traités de pitoyables vendredi lors d'un gala de bienfaisance organisé à New York par des organisations LGBT. On en vient à l'accord entre Russes et Américains qui tente d'initier une trêve en Syrie. Il va maintenant devoir passer l'épreuve du terrain. Hier, le régime syrien a annoncé qu'il s'y tiendrait, qu'il l'acceptait. L'opposition au régime de Bachar el-Assad accueille l'accord de manière beaucoup plus circonspecte. Les espoirs de voir la trêve militaire se concrétiser lundi soir et durer ensuite sont assez restreints. Pour Basma Kodmani, il est membre de la délégation des négociateurs opposants à Bachar el-Assad. Pour lui, il va bien falloir observer le comportement de la Russie avec son allié Bachar el-Assad.
L'opposition ne compte en aucun cas sur la bonne volonté du régime, elle compte sur le sérieux de la Russie dans cet accord. Est-ce que la Russie est sérieuse? Est-ce qu'elle est de bonne foi? Et dans ce cas, elle a tous les moyens d'exercer les pressions nécessaires pour que le régime se conforme à l'accord. Les clés sont à Moscou essentiellement, mais la Russie, je pense, au cours des deux derniers mois, je l'espère, tirera les leçons de ses opérations. Elle a dû fournir pendant plus de quatre semaines une couverture aérienne très intensive, des bombardements sans discrimination contre les populations civiles en faisant des dégâts considérables pour permettre au régime avec ses alliés que sont les milices confessionnelles chiites de rouvrir une route à Alep. Ceci nous donne une indication de l'état d'épuisement des forces du régime. Et pour Moscou, j'imagine que derrière des portes fermées, la Russie sait maintenant ce qu'elle doit dire au régime, qu'il est temps de composer, qu'il est temps de rentrer dans un processus politique sérieux. C'est ce que l'opposition demande. Elle s'est engagée stratégiquement sur cette voie. Elle a fait ce choix. Et pour l'instant, nous n'avons pas de partenaire ni d'interlocuteur sérieux.
Basma Kodmadi, elle est donc membre de la délégation des négociateurs opposants à Bachar el-Assad. Elle est avec Benoît Bouscarel pour France Culture. Et sur le terrain en Syrie, hier, les combats continuent de faire rage. Des frappes aériennes ont tué 58 personnes dans la ville rebelle d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Retour en France et la gauche éparpillée qui milite pourtant pour une union. Ce week-end, les candidats de gauche défilent à la fête de l'UMA à la Courneuve depuis hier et encore aujourd'hui, attendus sur scène Arnaud Montebourg, Gérard Filoche ou encore Benoît Hamon, tous invités par Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui milite donc lui pour une candidature unique à la gauche de François Hollande. Hier, pourtant, la star à la Courneuve, c'était Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat, le tribun qui a lancé la présentation de son programme et il est bien loin de s'imaginer participer à une quelconque primaire de toute la gauche, Laurence Perron.
L'équation est très simple et Jean-Luc Mélenchon l'a posée dès le 10 février lorsqu'il a annoncé sa candidature. Si François Hollande décide de se représenter, il n'y aura pas de primaire ou alors il l'écrasera. Les frondeurs ont échoué à influer sur le cours du quinquennat. Si la fronde a de l'estomac, qu'elle franchisse le Rubicon et se rallie à son panache. Avec les Verts, c'est un autre débat. L'insoumis en chef ne partage absolument pas ce qu'il considère être une sorte d'européanisme béat. Il accuse d'ailleurs l'actuel entourage de Cécile Duflot d'avoir instruit ce faux procès en xénophobie sur l'immigration. Non, l'exil n'est pas une chance lorsqu'on fuit la guerre ou la famine. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon en est certain, si primaire il y a, ce sera bien celle des écologistes. Sur les communistes, là, il y a soupir. L'appel à un socle commun, il y est favorable. Après, il faut se dépêcher, la campagne est déjà lancée. Et si on attend encore, ce sera trop tard. À ceux qui l'accusent de jouer l'élection présidentielle comme un dernier Olympia, l'insoumis, qui ne doute absolument pas du ralliement des communistes, n'a qu'une réponse. Oui, si l'heure est grave, alors il faut se hâter.
Laurence Perron pour France Culture. S'il leur est grave comprendre menace d'un duel droite-extrême droite au second tour en 2017. Et face à cette menace, les frondeurs du PS se sont réunis à La Rochelle pour leur université. Ils militent pour une primaire ouverte de toute la gauche et des écologistes. L'enquête s'accélère après l'arrestation de trois femmes radicalisées. Cette semaine, ce commando qui menaçait la région parisienne d'un attentat imminent. Une de ces jeunes femmes a été mise en examen et écrouée hier soir après son passage devant le juge antiterroriste. Ornella G, 29 ans, fichier S. Ses empreintes ont été retrouvées dans la voiture prête à exploser, voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée à Paris la semaine dernière. La lutte antiterroriste et les annonces aujourd'hui faites par le ministre de la Justice dans un entretien au JDD. Jean-Jacques Urvoas annonce vouloir durcir immédiatement les conditions de détention de certains détenus radicalisés. Ils sont 1400 en France. Annonce une semaine après la violente agression de deux surveillants de prison. Le ministre de la Justice veut plus de fouilles des cellules et faire changer régulièrement de cellules les détenus concernés. Autre entretien, celui de Nicolas Sarkozy, toujours dans le JDD. Le candidat des Républicains veut lui appliquer le principe de précaution à toute personne soupçonnée de lien avec le terrorisme et est placée préventivement en centre de rétention. Des drapeaux catalans et une foule compacte dans les rues de Barcelone. Pour la 5e année consécutive, une grande manifestation indépendantiste catalane a lieu aujourd'hui, c'est la Diada. Une Diada jugée décisive cette année. Les indépendantistes catalans croient en une indépendance de la Catalogne pour 2017. Pour la première fois suite aux élections de septembre 2015, le Parlement catalan dispose d'une majorité indépendantiste. Mais derrière cette apparente unité des indépendantistes catalans, il existe en fait de fortes dissensions, Marie-Hélène Ballestero.
À simple vue donc, le processus indépendantiste catalan avance à grands pas. Pourtant, depuis plusieurs mois, on observe de fortes divisions au sein du mouvement indépendantiste. À tel point que le gouvernement régional de Carles Puigdemont, composé d'indépendantistes de gauche et de droite, gouverne en minorité depuis juin dernier. Tout ceci après que le petit parti séparatiste et anticapitaliste de la CUP ait décidé de lui retirer son soutien et refusé de soutenir le budget du gouvernement catalan. Résultat, le président de la Catalogne, Puigdemont, va devoir poser le 28 septembre la question de confiance pour tenter de conserver une majorité et aller jusqu'au bout de son mandat et du processus indépendantiste. Les prochaines semaines seront donc décisives. Malgré leurs différences idéologiques, les partis indépendantistes catalans devraient a priori rester unis par la volonté d'avancer vers l'indépendance. La question aussi est de savoir à quel rythme et quel chemin on souhaite emprunter. Les médias Les Espagnols parlent de plus en plus d'un possible référendum unilatéral d'indépendance défendu à outrance par la CUP. En attendant, la Diada d'aujourd'hui aura une valeur de test pour les indépendantistes qui espèrent remobiliser leur base, lasse de toutes ces tensions internes.
Et Hélène Ballestero à Barcelone pour France Culture. Le grand pèlerinage de la Mecque, le Hajj, plus de 1,8 million de fidèles musulmans du monde entier y sont en ce moment. Il a commencé hier ce pèlerinage aujourd'hui. C'est l'ascension du mont Arafat avec des mesures de sécurité renforcées par Riyad, marquées par la bousculade meurtrière de l'an passé. À Venise, le Lion d'Or est attribué à The Woman Who Left, la femme qui est partie, un film philippin du réalisateur Lav Diaz, décerné donc hier. C'était la 73e Mostra de Venise. Et puis un mot de météo pour terminer, une belle journée sur quasi toute la France, sauf ce matin, quelques averses sur une diagonale allant du Nord-Pas-de-Calais à La Rochelle. Ça va s'arranger dans la journée.